France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture, jusqu'à 20h30. En cette période de fête, un peu à cheval entre 2018 et 2019, nous aimerions ce soir évoquer un anniversaire qui ne passera pas inaperçu, sans doute, à savoir les 50 ans de Woodstock. Nous avons intitulé ce soir notre émission Woodstock, 50 ans et toutes ses dents. Dans la première partie de cette émission, nous reviendrons sur le célèbre festival de musique qui a eu lieu en août 1969, quelque part dans un champ du fermier Max Yasger, au nord de New York, aux États-Unis. Non pas d'ailleurs à Woodstock, comme on le croit souvent, même si Bob Dylan y vivait, lui, dans cette petite ville de Woodstock, et en est devenu le symbole. Nous sommes allés d'ailleurs à Woodstock pour préparer cette émission. Nous avons interviewé des hippies et des néo-hippies qui nous décriront ce qu'ils font et comment la ville a évolué. Dans une seconde partie, nous allons nous intéresser à Woodstock aujourd'hui, c'est-à-dire à son esprit, ce qu'il en reste, notamment aux utopies modernes. Et nous serons pour cela avec deux utopistes, on peut dire, d'aujourd'hui. Sandrine Roudot, auteure de l'utopie mode d'emploi, ainsi que de l'ouvrage Les Suspendus. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Ça vous convient, utopiste comme profession ?
Complètement.
Et Eliott Lepers, qu'on connaît bien dans cette émission, activiste et fondateur de l'ONG Le Mouvement, utopiste lui aussi.
Ouais, surtout depuis que j'ai entendu Sandrine en parler, effectivement, elle expliquera pourquoi est-ce que c'est pas péjoratif.
Toujours au sommaire de cette émission, seconde partie à 20h, l'invité innovation ce soir avec vous, Zoé Svez.
Nathan Reznik, est-ce que c'est un utopiste? On ne sait pas, mais en tout cas c'est le directeur général d'Illucity qui est le premier parc d'attractions en VR, c'est-à-dire en réalité virtuelle, qui a ouvert à Paris il y a à peine un mois dans 1000 mètres carrés, c'était à la Villette. C'est le premier en France, c'est le plus grand d'Europe. C'est quoi le modèle économique? Pourquoi est-ce qu'on va dans ce genre d'endroit? On en parlera avec lui.
20h10, le Club de la Presse Numérique, nous parlerons ce soir des tendances web 2019, ce que l'année 2019 qui arrive nous prépare en matière numérique, à quoi on peut s'attendre. Nous serons pour en débattre avec Amel Guiton de Libération et Eliott Lepers qui restera avec nous. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission est exceptionnellement enregistrée. Elle a été réalisée par Véronique Villa avec en régie Pierrick Charles. L'émission a été préparée par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot. Vous pouvez la suivre, cette émission également sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez également suivre les podcasts de Soft Power sur iTunes, sur l'application podcast de votre smartphone et même désormais sur Spotify en tapant Soft Power et bien sûr sur France Culture jusqu'à 20h30.
I had a dream last night. What a lovely dream it was. Dreamed we all were all right, happy in a land of Oz. Why did everybody laugh when I told them my dream? I guess they all were so far from that kind of scene. Feeling mean. I heard a song last night. What a lovely song it was. I thought I'd hum it all night. Unforgettable because players were playing together. All of the heavies were light as a feather.
Woodstock, 50 ans et toutes ses dents, tel est le sujet de cette émission Soft Power ce soir. Écoutez, il y a quelques instants, Kenneth Hait, Going Up the Country, et à l'instant, John Sebastian, I Had a Dream. Et tout au long de cette émission, bien sûr, nous écouterons un certain nombre de morceaux qui ont été joués à Woodstock en 1969 avec nous. Deux invités, je l'ai dit, Sandrine Roudot et Elliot Lepers. J'aimerais commencer peut-être par une question à tous les deux. Vous n'étiez pas nés, ni l'un ni l'autre, lorsque Woodstock a eu lieu en 1969. Qu'est-ce que représente pour vous Woodstock, un événement culturel et musical qui a eu lieu à une époque donc avant même votre naissance? Sandrine, pour commencer.
Moi, ce que ça représente pour moi, c'est à la fois une conscience politique, et à la fois beaucoup de légèreté. En fait, c'est cet équilibre qui me plaît beaucoup. C'est à la fois beaucoup de conscience et beaucoup d'insouciance à l'époque. Et la rencontre d'artistes engagés et de militants joyeux. Et on aimerait bien avoir ça aujourd'hui, en fait.
Quelles sont les composantes, selon vous, qui ont fait Woodstock? La musique, bien sûr, mais les hippies, ouais. L'utopie, ouais. Quoi d'autre?
Il y avait cette conscience politique pour la paix. Était quand même assez forte.
Au moment de la guerre du Vietnam. Ouais.
Voilà, au moment de la guerre du Vietnam, il y avait ce besoin de retour à la nature.
Retour à la terre.
À la terre, voilà. Qui était finalement un peu une réaction à la société, société qui était en train de se construire, assez rigoriste, autoritaire, un peu conservatrice.
Aussi la société de consommation, par
complètement, ailleurs. Complètement, oui, qu'on était quand même à ses débuts. Et puis, donc c'est la génération des baby-boomers qui remettait en cause
le modèle américain.
Le modèle, voilà, et l'impérialisme même américain.
Et l'autre de Perse, pour vous, Woodstock?
Ouais, c'est vrai que c'est un bel exemple de mobilisation qui effectivement ne dit pas forcément son nom, quoi. C'est faire la paix et montrer la paix et installer la paix pendant 3 jours pour envoyer un message contre la guerre, mais effectivement sans être dans la revendication. Donc c'est assez instructif parce que c'est ça aussi qui créer cette spontanéité, quoi. Et quand on arrive à faire de la mobilisation qui nous dépasse et qui se mêle à une forme de ferveur spontanée incontrôlable, parce que c'est ça qui s'est passé, parce qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes de plus que prévu, là on voit qu'il se passe quelque chose. On voit que c'est l'endroit où il faut être pour envoyer un message à la société. Et moi je trouve que c'est effectivement c'est super instructif, transposé, voilà, 50 ans plus tard, avec les enjeux qui sont les nôtres, de ferveur, de spontanéité et de marasme politique.
Quand on regarde les thèmes qui émergent au moment de Woodstock, même si c'est aussi une période un peu plus large, hein, que simplement ces quelques jours, 15, 16, 17, 18 août 1969, on l'a dit, il y a le retour à la terre, il y a aussi, au fond, le bio, déjà, la nourriture organique, les méditations, la démocratie directe, tous ces éléments. Est-ce qu'on pourrait presque dire que les hippies, quand on voit aujourd'hui que les gens consomment des graines, des dattes, du quinoa, des granola, duquel les végans, les végis. Est-ce que les hippies ont gagné, finalement?
Ils sont bien rentrés dans le rang, quand même, entre-temps, entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a cette génération Woodstock, quand même, qui était jeune à cette époque-là, elle est quand même très rentrée dans le rang de la société de consommation.
Avec son bol d'açaï et son yoga.
En fait, ça revient aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on voit revenir, finalement, l'esprit de Woodstock. Et c'est assez récent, finalement. Alors, en dehors du bio, qui, lui, a réussi à se construire, et qui est vraiment la rencontre de deux mouvements de résistance, qui étaient à la fois les agriculteurs, d'un côté, qui résistaient au modèle industriel et chimique qui arrivait, et puis des consommateurs qui ne voulaient pas manger cette nourriture-là. Et en fait, c'est deux mouvements de résistance qui se sont rencontrés. Et là, pour le coup, ce mouvement-là, lui, il a mis des années, mais il est encore là aujourd'hui. Et c'est un des grands mouvements qui est né quand même de cette époque-là.
Elliot ?
Et puis les 50 dernières années ont quand même été les 50 années pendant lesquelles notre monde s'est le plus transformé et pour le pire finalement, où l'industrie s'est développée à outrance, où l'individualisme a régné. Et il y avait quand même dans le fondement de la pensée hippie la question de la contre-culture. Aujourd'hui, effectivement, ce que vous décrivez existe, mais est plutôt institutionnalisé. C'est-à-dire c'est plutôt des grandes enseignes industrielles qui, effectivement, essaient de le faire devenir majoritaire. Et donc, c'est l'inverse de la contre-culture. Donc, est-ce qu'une contre-culture peut réussir quand elle devient mainstream, pour utiliser un mot anglais, c'est-à-dire généralisée? C'est pas sûr.
Dominante. Zoé Sfez, est-ce qu'on va recréer Woodstock?
Alors, il faut dire quand même qu'il y a eu deux rééditions, en tout cas célébrations, une en 94 et une en 99, qui n'ont pas été extrêmement, disons, fortes et qui n'ont pas marqué fondamentalement les esprits. Mais on a appris, et parce qu'en fait, les informations ont leaké, il y a même un flyer qui a leaké, que l'un des promoteurs d'origine, Michael Lang, mais je crois que vous allez en parler, Frédéric, plus tard, a décidé, en tout cas, d'organiser une édition anniversaire, probablement à l'été 2019. Ce serait à Bethel, donc toujours au même endroit. Et parmi les artistes invités, ou en tout cas qui seraient en train de conclure des accords, on trouve, et c'est assez intéressant de regarder un petit peu quel serait le Woodstock d'aujourd'hui, on trouve Bon Jovi, John Baez, donc on est sur des vrais d'avant, Elton John, mais aussi Eminem, Pearl Jam, Pink, Ariana Grande, donc on voit déjà bien, vous voyez qui c'est Ariana Grande quand même, qui remplit des zéniths pur produit du Disney Club, je crois. Donc voilà, qu'est-ce que ce serait Woodstock aujourd'hui ? Celui qui essaye d'en recréer un nous montre que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que c'était il y a 50 ans. Alors est-ce que ce concert va avoir lieu ? Est-ce que c'est encore possible ? Est-ce qu'il attirera les foules ? Est-ce qu'on a envie finalement qu'il ait lieu ? Vous savez, c'est un petit peu comme les remakes de ces grands films. On n'est pas sûr d'avoir envie qu'ils aient lieu. La question, on aura la réponse dans quelques mois, je pense.
Alors Woodstock, en août 1969, inaugure une décennie de sex, drug and rock'n'roll. On l'a dit, ça se passe à Bethel, à 70 km à peu près de Woodstock, dans une ferme, celle de Max Yasger. Et donc assez loin finalement de Woodstock, la petite ville, très petite. Woodstock aujourd'hui, quand on y va, c'est en fond trois rues, hein, Tinker Street, Rock City Road et Mill Hill Road qui se croisent. Et là vous avez quelques maisons, c'est un village en réalité, dans la plaine, dans la campagne, en zone rurale au nord de l'état de New York. Et cette ville de Woodstock est le symbole, et en même temps, c'est pas là que le festival a eu lieu. Alors, je vous propose de partir pour Woodstock, non pas le festival, nous irons un peu plus tard à sa rencontre, mais la ville. En fait, cette toute petite ville, nous y sommes allés il y a quelques semaines pour préparer cette émission. Au milieu du village, des hippies de 2018 dansent et tapent dans leurs mains et ils jouent du tambour. Un vieux hippie nous parle. Le voici.
Drum circle, every Sunday.
Drum circle, le cercle des tambours, c'est tous les dimanches. Tous les dingues sortent de chez eux et viennent là. Ah, le cercle des tambours, eh bien, on se rassemble et on tape sur des tambours. Bah ouais, c'est tout. Et puis on fait les dingues. Ils vont changer de rythme là.
Just beat on drums.
Mais bon, ils tapent sur les tambours, hein.
For 2 hours every Sunday.
Ça dure 2 heures tous les dimanches.
Hey, it's part of the local color.
Ça fait partie de la couleur locale.
You live in. Vous vivez à Woodstock?
Yes.
Oui, je vis à Woodstock, moi, oui.
Oh, most of my life.
Pratiquement toute ma vie, j'ai vécu à Woodstock.
Oh, I got like 10 years old. Let's see, 1957.
Je suis arrivé là en 1957.
Before that, I was in London.
Avant, j'étais à Londres. Ce qu'ils font.
It's just a chance for town people to come out and the colorful people.
Bah, ils chantent, ils font venir des gens, ils invitent les gens à venir taper sur les tambours. Ça permet de se défouler aussi.
I don't know, a lot of motivations.
Je sais pas, les gens ont des motivations différentes. C'est une espèce de tradition. On est fidèle à la tradition. À l'époque, Woodstock, c'était un petit bled ordinaire. Hein. Mais c'est agréable de vivre là. Quand on est un peu libre penseur, quand on déteste Trump, c'est bien de vivre à Woodstock. Et quand on est un petit peu préoccupé par l'état du monde, ouais, c'est bien le Woodstock pour ça.
So when did you arrive here?
Quand est-ce que vous êtes arrivé ici?
Oh, I was like 10 years old.
Oh, je suis arrivé, je devais avoir 10 ans.
Grew up nearby,
j'ai grandi à côté là.
Home for him. He was well, he went through America's first experiment with fascism, the blacklist.
Il y a eu la première expérience du fascisme en Amérique. C'était un scénariste, il travaillait à Hollywood, puis il y a eu des problèmes. Moi, je suis là depuis les années 50. Woodstock était complètement différent à l'époque. Comme je vous ai dit, c'était un petit bled tout à fait ordinaire, banal. Puis il y a eu le festival de Woodstock en 68, et là, ça a tout changé.
Quel est l'esprit de Woodstock pour vous aujourd'hui?
L'esprit de Woodstock aujourd'hui, bah, je dirais, c'est des gens qui sont des libres penseurs sur le plan politique. Des gens qui refusent de se faire piéger par, par tous les trucs horribles qui se passent dans le monde. Des gens qui essayent de trouver d'autres solutions, de communiquer des messages positifs. On est un petit peu fidèle à l'esprit de Woodstock, ouais. On se préoccupe de l'environnement, d'une pensée alternative, de choses comme ça, vous voyez. Parce que le reste du monde, c'est l'horreur, hein. Il faut vraiment envisager quelque chose de différent. Donc on essaye de parler à d'autres gens qui ont les mêmes réflexions que nous.
La culture de la drogue est encore influente ici?
La drogue, moi, ça m'a jamais vraiment plu. Hein. Ça n'a jamais été mon truc, moi. Oui, il doit y en avoir, oui. Peut-être que c'était pire à l'époque, hein, je ne sais pas. Mais moi, bon, c'est pas pour moi. Moi, bon, je ne sais pas, je vis à Woodstock, c'est tout.
Les hippies sont maintenant getting older.
Les hippies vieillissent, vous savez.
There's a bunch right out there.
Tiens, il y a un groupe de hippies là-bas.
Eh oui, les hippies, ils vieillissent. Alors Woodstock 2018, c'est un peu ce qui se passe en ce moment dans ce village, et ce qui nous permet de remonter à Woodstock 1969, il y a 50 ans. John Roberts était à cette époque l'un des co-organisateurs de Woodstock. Il revient sur ce que fut cet événement et sa préparation. Une archive de l'INA diffusée sur France Culture dans les Nuits Magnétiques le 26 juin 1978, émission produite par Pascal Dupont. Tendez l'oreille, on entend surtout le traducteur, on faisait parfois comme ça à l'époque. Écoutez bien, à la fin, lorsque la foule de Woodstock se met à chanter « No rain, no rain » et refuse la pluie. John Roberts.
On s'est retrouvé avec un groupe de gens qui avaient de l'argent en train de monter ce studio d'enregistrement Media Sound. Et ça, c'était en 68. Et vers la fin de l'année 68, des gens qu'on avait rencontrés à travers le coût du studio d'enregistrement et qui savaient qu'on avait de l'argent, qu'on était suffisamment bien branchés, nous ont envoyé quelques idées pour un autre studio d'enregistrement. Une part de leur idée comprenait le coup d'envoi de ce qui fut le festival. Je n'étais pas politisé quand je suis rentré au collège en 66. J'étais au Parti démocrate, mais je n'y pensais pas trop. Mes cheveux n'étaient pas longs. Je portais des vêtements plutôt classiques. Mais il est certain que mon expérience de Woodstock a commencé à me faire rencontrer des gens du monde de la musique, de l'underground, de la politique ici à New York. Et bien que je n'ai jamais été emballé par leurs idées et leurs points de vue, il est évident que j'étais en contact avec eux, et dans une certaine mesure, ma façon de parler, la longueur de mes cheveux, ma façon de m'habiller, les drogues que je prenais, alors que j'en prenais très rarement avant, toutes ces choses-là ont commencé à m'arriver en 69.
Coming in from London, from over the pole. Flying in a big airliner, chicken flying everywhere around the plane. Could we ever feel much finer? Coming into Los Angeles,
a key. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. There's a guy with a ticket to Mexico. No, he couldn't look much stranger. Walking in a hall with his things and all. Smiling, said it was a Lone Ranger. Coming into Los Angeles. Bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man.
Je viens de ce qu'on peut appeler une famille traditionnelle. Et leur point de vue sur la musique, leur connaissance des courants qui circulaient alors à la fin des années 60 était très limitée. L'idée de plusieurs milliers, de 500 000 personnes qui font des centaines de kilomètres pour venir écouter un concert leur paraissait absurde. Et en fait, c'est absurde. Si on peut aller au concert ici à New York, pourquoi aller à Perpète pour écouter un concert ? Mais je pense qu'on a su sentir le vent ici, vers les années 60. Et on savait qu'on pouvait créer une ambiance, un événement publicitaire. On pouvait réunir un plateau de célébrités qui attirerait les gens. On a senti que la musique était devenue un tel aimant pour les gens qu'ils seraient venus de toute façon. Et on a eu raison. Beaucoup d'entre eux croyaient qu'on allait amener de la drogue, que les hippies allaient violer leurs filles, saccager leurs terres. En fait, ils avaient tort. Mais ils voyaient ça de leur point de vue, et ça a créé des problèmes énormes. On a essayé d'établir des contacts. Par exemple, à un moment, on a monté un spectacle pour les habitants intéressés de Rock Hill, cette ville qui essayait de nous mettre à la porte, pour leur montrer à quoi ressemblait la culture des jeunes et quel genre de spectacle nous allions organiser. Et nous avons fait appel à une petite troupe, un de ces groupes de théâtre de rue, pour monter un spectacle. Et tout se passait très bien, tous les fermiers étaient là avec leurs femmes, la troupe était en train de jouer une pièce tout à fait innocente et légère. Mais brusquement, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, les comédiens ont décidé que pour rehausser le spectacle, qu'ils se déshabilleraient complètement. Et bien sûr, ça a créé un certain remous dans l'assistance, et on a été mis à la porte. Ensuite, les autres difficultés étaient de réussir à programmer suffisamment de numéros, de faire venir les gens par avion, de s'occuper d'eux sur place. Ils voulaient tous être payés d'avance. On était à court de liquide. On a même dû aller à la banque un samedi soir à minuit. Le troisième ordre de problème était de construire l'environnement matériel. On n'avait plus que 30 jours devant nous, pendant lesquels il a plu sans arrêt. Pour construire un nouveau décor, les scènes, les parkings, les barrières, etc. On a d'ailleurs raté notre coup pour les barrières. Un nombre incalculable de problèmes.
I feel snowed under. I recognize.
Et alors arrive le 15 août 69. Comment vous vous sentez ce jour-là ?
Je me sens débordé. Je me suis rendu compte tout d'abord que je n'allais pas faire de bénéfices, qu'on allait perdre beaucoup d'argent, ce qui ne me faisait pas particulièrement plaisir. Deuxièmement, que les 100 000 personnes qu'on attendait allaient être 300 ou 400 000. Le fait qu'on est tombé à court d'eau à un moment, les coupures de courant, des milliers de problèmes. Et en plus, il pleuvait.
Entretien avec son archive originale, No Rain, No Rain, moment incroyable, Elliot Lepers.
Ouais, exactement. Et puis, c'est quand même dingue de se dire qu'effectivement, toutes les routes étaient bloquées autour, finalement, et que...
Les artistes arrivent en hélicoptère.
Il y a eu, effectivement, l'armée américaine qui a mis à disposition des hélicoptères.
Grâce au gouverneur Nelson Rockefeller.
Ouais.
Merci à lui.
Pour les amener sur place.
Relativement... C'était l'aile gauche, disons, du Parti républicain, contrairement à d'autres familles, notamment à Nixon, bien sûr, à cette époque. Mais aussi, il vivait avec, notamment, le connaissant, en relation avec Nancy Hanks, qui était la patronne du National Endowment for the Arts. Donc, c'était un homme de culture aussi, Rockefeller. Et au fond, il hésite entre interdire le festival ou l'autoriser. Et finalement, il décide de l'autoriser tout en organisant les choses avec l'armée, donc des hélicoptères, etc.
Et finalement, ça se passe pas si mal. Hein. Je crois que c'est ces deux naissances, quatre fausses couches et trois morts.
Ouais. À l'époque, c'était quand même une gestion humaine. Ça aurait pu être largement pire au regard des chiffres actuels dans des festivals plus logiques, et la proportion est très faible.
Niveau musique, on a déjà écouté un certain nombre d'extraits. Alors, on connaît bien les présents, évidemment, John Baez, Joe Cocker, Santana, The Band, Janis Joplin, etc. Parmi les grands absents, il y a bien sûr Bob Dylan. Tout le monde pense qu'il était à Woodstock. En fait, il habitait le village de Woodstock, mais il était en tournée en Angleterre, et donc il n'était pas à Woodstock ce jour-là.
Mais en fait, c'est très intéressant de regarder la liste des absents. Mais il y a aussi plein de gens dont je pense que dans l'imaginaire collectif, on imagine qu'ils ont été à Woodstock, alors qu'en réalité, ils n'y étaient pas du tout. Il y a beaucoup de gens, surtout, qui n'ont pas compris l'ampleur du truc, en fait. C'est ça qui est très marrant.
Jeff
beaucoup
Beck, de gens... Led Zeppelin, Frank Zappa, déclinent l'invitation.
Voilà, qui dit... Led Zeppelin, il dit très concrètement, moi, j'avais pas envie d'être un groupe parmi les autres. Je m'attendais à être, tu vois, on me propose d'être le clou de la soirée, alors que chacun avait une heure. Frank Zappa, qui dit, il y a beaucoup trop de boue dans cet endroit. Et les Rolling Stones, qui considèrent que ce sera le Monterey au Festival du Pauvre, qui était à l'époque.
Et ils sont à l'époque festival. En Australie.
Ça finit dans la nuit du 18 avec Jimi Hendrix qui fait des solos de guitare où il imite les bombardements de la guerre du Vietnam. Voilà, pour boucler un peu le propos finalement.
Et aussi une version psychédélique de l'hymne national américain qu'on écoutera tout à l'heure d'ailleurs. Michael Lang est l'un des autres organisateurs de Woodstock. Il explique comment est née l'idée même de Woodstock. Michael Lang.
The first idea of Woodstock is yours?
Yeah, it was mine and a friend of mine named Barty Cornfield.
La première idée de Woodstock, c'est vous qui l'avez eue?
Thought it'd be a good idea.
Oui, c'est un ami à moi et moi, on l'a eu ensemble. Ça a eu, finalement, ça s'est très bien passé. Ça a marché, on a essayé, ça a marché.
At the first beginning of this Woodstock, the idea.
Et tout au début de Woodstock, est-ce que vous aviez l'argent pour faire le festival ou est-ce que vous en cherchiez?
On n'avait
pas du tout de l'argent au début. On en a trouvé. Quel est le truc magique pour réussir un festival? Il y a pas mal d'ingrédients différents. D'abord, faire un festival au bon moment. Ensuite, faire que le public ait confiance et arrive nombreux. Il faut d'abord faire une organisation assez exemplaire et créer toutes sortes de facilités. Le reste sont les gens qui doivent le faire eux-mêmes.
Est-ce
que vous pensez, comme on l'a beaucoup dit, qu'une nouvelle génération est née à Woodstock, ou tout au moins que Woodstock ait fait naître un nouvel état d'esprit? Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les choses changent continuellement, et Woodstock a été une sorte de cristallisation pour la presse, de réaliser que tout d'un coup... Une nouvelle génération était là. C'est pour ça que Woodstock a eu un si grand succès.
À l'instant, Michael Lang, co-organisateur de Woodstock, il a d'ailleurs publié le récit de cette aventure, The Road to Woodstock, une archive INA diffusée dans l'émission Pop 2 de l'ORTF le 15 mai 1971. Émission présentée par quelqu'un qui deviendra célèbre dans la musique et la télévision par la suite, Patrice Blanc-Francard.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
Ce soir, nous parlons de Woodstock. Woodstock, 50 ans et toutes ses dents. On fêtera l'anniversaire de Woodstock en août 2019, puisque c'était le 15, 16, 17, 18 août 1969 que ce festival, dont le nom était An Aquarian Exposition in White Lake, New York, Three Days of Peace and Music, trois jours de paix et de musique, une exposition dans cette ville, cet endroit de White Lake, tout à côté du village de Bethel, où a eu lieu le festival de Woodstock. Nous sommes ce soir avec Sandrine Roudeau, auteure de L'Utopie Mode d'Emploi, et Lotte Lepers, activiste fondateur de l'ONG Le Mouvement. La génération Woodstock, est-ce qu'elle a abandonné ces utopies, vous le disiez un peu en début d'émission, Sandrine.
Déjà, il faudrait redire ce qu'est une utopie.
C'est quoi une utopie ?
Voilà. Parce que l'utopie, ça fait sourire, mais en fait, c'est plutôt une arme subversive. L'utopie, si on reprend l'étymologie, c'est ce qui n'existe, c'est ce qui n'a pas de lieu. C'est donc irréalisé. Et en fait, nous, on l'a traduit par, dans notre grande majorité, par l'irréalisable. Donc on ironise toujours un peu sur les utopistes, mais en fait c'est assez dramatique parce que ça veut dire qu'on ne s'autorise pas à inventer quelque chose qui n'existerait pas déjà. Ce qui est quand même assez dingue, peut-être même ça veut dire qu'on ne s'autorise pas à rêver grand, ça veut dire qu'on n'inventerait jamais rien. Donc en fait les utopies, finalement quand on regarde les plus grandes innovations et nos droits les plus légitimes, les plus beaux, au moment où ils sont défendus, ce sont des utopies, puisque ça n'existe pas. Et quand elles sont réalisées, elles perdent le droit de s'appeler utopie. À cause de ce péril de l'étymologie. Et du coup, donc on pense que les utopies ne se réalisent pas. Mais que vous prenez n'importe quel de nos droits, que ce soit le droit de vote des femmes, que ce soit la fin de l'esclavage, que ce soit la fin de la ségrégation, au départ, ce sont des utopies, personne n'y croit, c'est inconcevable et c'est défendu par des minorités. Et c'est souvent, voilà, c'est aussi tourné en ridicule, un peu pour faire Vade Retro Satanas, parce que les utopistes, en fait, ils sont en train de contester le présent. Et ça, dans notre grande majorité, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Et en fait, il y a peu de gens qui peuvent se projeter et inventer un autre futur en contestant le présent.
Alors, quelles seraient les utopies d'aujourd'hui, Woodstock aujourd'hui? Ce serait quoi, hein?
Woodstock aujourd'hui, en fait, moi, ce qui me fascine dans Woodstock, c'est que les gars, ils imaginaient qu'il y en aurait 50 000, et en fait, il y en a eu 500 000. Et
personne,
c'est un peu ça. Ouais. Et après coup, on se dit, c'est le mouvement hippie, mais... Finalement, on l'a post-rationalisé, cette histoire. C'est-à-dire qu'au moment où ils lancent ça, ils veulent juste faire un petit festival, les gars. Et c'est un peu toujours comme ça, l'utopie, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand mouvement d'utopistes. Hein, j'en rêverais, mais c'est pas le cas. Par contre, il y a, en ordre dispersé, tout un tas de petites utopies, qu'on voit pas forcément, parce que, effectivement, elles sont en ordre dispersé, et elles sont, voilà. Parce que l'histoire essaye toujours de lisser les choses. Et de faire en sorte qu'un mouvement voilà, a été dessiné, arrive tout propre, avec ses grandes figures, son plan d'action, enfin, comme s'il y avait un plan d'attaque, etc. Ce qui est faux, en fait.
C'est juste intéressant, petit aparté, de voir qu'il y avait très peu de journalistes qui étaient présents à Woodstock, parce que peu de journaux avaient senti la puissance de
beaucoup
de la
sont
chose.
Devenus journalistes par la suite.
Beaucoup sont devenus journalistes parce qu'ils avaient été à Woodstock. Et globalement, d'ailleurs, les quelques traitements qu'il y a à l'époque, le jour même et à l'issue du dernier jour, sont extrêmement négatifs. Enfin, c'est vraiment 300 000 personnes foutent le bordel dans l'État de New York, se droguent. Et donc, on est encore dans un moment où toutes ces valeurs ne sont pas du tout mainstream. C'est quand même intéressant de le rappeler. Et finalement, le traitement devient positif dans les mois qui suivent, et notamment au moment où le film sort. Mais c'est très intéressant de voir comme à l'époque, on peut en parler comme on en parlait aujourd'hui, on parlait dans les années 90 des rave parties, quoi.
Alors au début, en fait, c'est économique, il ne faut pas négliger le fait que c'est un business. 18 $ le ticket à l'avance, 24 $ à l'entrée. Finalement, ça deviendra gratuit vu la déferlante de gens qui apparaissent. Quels seraient les hippies, Elliot Lepers, quels seraient les hippies aujourd'hui?
Bonne chance, Elliot Lepers.
Je pense que effectivement, même si la question de la paix a été un gros moteur de ces mouvements-là il y a 50 ans, aujourd'hui, force est de constater que c'est pas forcément le sujet principal. J'ai l'impression que ce qui pourrait définir l'aspiration à un autre monde aujourd'hui, c'est de reprendre du pouvoir sur nos vies. C'est cette notion d'être dépossédé, finalement, à la fois sur le plan démocratique, alors qu'effectivement, on a plus de démocratie et plus d'accès à nos représentants qu'on n'en a jamais eu, finalement, plus de gens qui sont formés, qui sont capables de traiter de ces sujets-là. Mais effectivement, on a l'impression de ne pas être représenté sur la question démocratique, et puis ça se décline sur la question économique. On a l'impression de ne pas savoir ce qu'on mange, on a l'impression de ne pas savoir comment sont fabriqués les biens de consommation qu'on achète, on a l'impression de ne pas avoir de sens dans notre travail. Ça, c'est des choses qui sont très fortes, notamment chez les millennials, chez les moins de 26 ans, je me mets dedans, et qui effectivement sont des questionnements qui interrogent nos sociétés et nos modes de vie occidentaux, on va dire. Mais je pense que comment est-ce qu'on recrée du lien, finalement? Comment est-ce qu'on recrée du lien à ce qu'on produit, à ce qu'on mange? Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est la grande interrogation de notre génération.
Alors, le bio, la nourriture, les spiritualités, la musique, aussi le numérique. Voilà tout un tas de thèmes que nous allons essayer de creuser dans la deuxième partie de cette émission.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
The co-owner of the store is a graphic artist, and we recreated it and corrected it.
Right. Oh, okay.
Corrected it also. So.
Very good. Very good.
Ici, nous sommes dans une librairie qui s'appelle The Golden Notebook à Woodstock. Et les libraires, deux femmes, sont en train de vendre à quelqu'un qui est venu le racheter pour la quatrième fois, je crois, dit-il, un livre intitulé Small Town Talk, qui est une histoire au fond de Woodstock, de Bob Dylan, Van Morrison, Jimi Hendrix, un livre écrit par Barney Hoskins.
I've been a owner of this store since 2010, but the store is going into its 40th year. I bought it.
La boutique, elle existe depuis 40 ans. Je l'ai rachetée en 2010. Elle devait fermer. En fait, c'est une librairie d'intérêt général ici. Il y a des livres pour enfants ou pour adultes. Il faut que ça soit éclectique. Il faut rassembler l'univers des livres dans ce petit espace.
En même temps, on est à Woodstock ici, donc ça a sûrement une influence sur les livres que vous vendez.
It definitely yes. We sell a lot of music books, as you see, you're leaning against our music section.
Sur la musique. Vous voyez notre rayon de musique, il est assez fourni.
And books on Bob Dylan.
Et puis il y a des livres sur Bob Dylan et the band. Lee Von Helm, le batteur, Janis Joplin. Donc les gens viennent à Woodstock pour diverses raisons. Et ils viennent pour la musique.
Il y a aussi beaucoup de livres sur la nourriture organique, la nature.
Absolutely. So, like the vision of the Woodstock Festival. Yes, it was about music. But
la vision du festival de Woodstock,
right?
C'était à propos de la musique, mais c'était à propos d'un nouveau mode de vie.
Right?
Et ces valeurs perdurent en quelque sorte. Il s'agit de bonté envers l'autre, il s'agit de respecter la nature, le sens de la communauté. Et puis, il y a aussi des livres de fiction et de non-fiction.
Vous êtes très pro-Trump ici.
No,
pas du tout. Pas du tout en faveur de Trump.
We've been selling more political books.
On vend de plus en plus de livres de politique.
Pourquoi vous êtes venu ici?
That's a really good question.
Très bonne question.
I think that a version, you know, one thing about Woodstock is that people have been coming here for many years.
Les gens viennent à Woodstock depuis très longtemps pour rechercher une utopie, même avant le festival et même avant Dylan. Donc, des gens qui sont à la recherche d'une utopie et qui veulent trouver la communauté pour y adhérer. Donc, la promesse d'une communauté.
Quelles sont les valeurs de Woodstock qui demeurent aujourd'hui?
I'm going to say this as Woodstock, the town, the community, okay?
La communauté, le sens de la communauté, ça c'est très très fort ici. On le sent, hein. C'est très facile de parler aux gens. Il y a des artistes, des écrivains, des artistes divers, on peut leur parler. Et c'est formidable. Donc le sens de la communauté, je dirais. Le fait de se rassembler face à l'adversité, pour autant que ça soit une valeur, ça, c'est important ici aussi. Préserver une identité indépendante ici à Woodstock. On ne voit pas de magasins franchisés, il n'y en a qu'un à vrai dire. Donc on est fier d'être indépendant et puis on essaye d'être bon les uns envers les autres.
For their own sake, they're embedded into the instruction for how to practice meditation successfully. So there's images, diagrams.
Vous faites souvent des conférences comme ça?
Yeah, we do a lot of author events.
Oui,
we do about 100
beaucoup de signatures, 100 par an à peu près.
Woodstock, c'est une ville, c'est aussi un état d'esprit, un mode de vie. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous?
So, both. The idea that you can,
les deux,
like,
mon commandant.
On
peut vivre ses propres valeurs. Woodstock incarne en quelque sorte, à mes yeux, une vie artistique. Il y a beaucoup de diversité ici. Il y a quelques tensions entre les riches et les gens qui le sont moins, mais on peut quand même vivre selon ses propres désirs. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde, hein, ici. Nous avons un monastère bouddhiste. Le Dalai Lama est venu ici et les gens créent l'art auquel ils croient.
Vous avez quelques livres qui représentent à la fois ce lieu, mais aussi cet état d'esprit.
My favorite Woodstock books are by artists that live here in Woodstock.
Il y a des artistes qui vivent ici et qui racontent exactement ce que je disais. Et c'est les livres que je préfère, justement, les livres de ces auteurs. Sinon, il y a le livre du grand poète américain et grand intellectuel américain, Ed Sanders, qui faisait partie des Fugs, qui ont fait la lévitation du Pentagone en protestation contre le Vietnam. Il a écrit un livre sur New York, une ville sur la famille Manson, et c'est un Américain absolument incroyable qui a vécu selon ses convictions. Il a écrit la poésie toute sa vie, il vient de publier un nouveau livre. Biographie sur Robert Kennedy. C'est écrit en vers. Donc tous les livres d'Ed Sanders, j'adore les vendre. Et le livre que j'ai à la main, c'est ses mémoires, qui s'appelle Fog You. Et je recommande la lecture à tous ceux qui s'intéressent à la scène intellectuelle de New York dans les années 60, une transition de la Beat Generation vers le mouvement de protestation anti-guerre. Donc Ed Sanders, c'est vraiment le chaînon entre les deux.
À l'instant, Jacqueline Callaghan, la responsable de The Golden Note Book, située au 29 Tinker Street à Woodstock. Elle évoquait Ed Sanders qui vit à Woodstock, un poète, chanteur, passerelle, comme elle l'expliquait, entre la Beat Generation et Woodstock. Alors nous sommes toujours dans cette petite ville de Woodstock, de l'autre côté même de la rue, un autre magasin où je rencontre la vendeuse. C'est un magasin de cosmétiques et de produits bio. Elle est beaucoup plus jeune et son discours sur Woodstock est très différent. Écoutez-la.
I was born and raised here. Grew up here, went to school here.
Je suis né ici, je suis allé à l'école ici, je vis encore ici.
C'est une ville de combien d'habitants?
Very small.
Oh, c'est tout petit.
Very, very small.
C'est tout petit.
Il fait très froid ici l'hiver.
Yeah. Oh yeah.
Oh oui.
Oh my God, it's a nightmare in the winter.
Ah oui, c'est un cauchemar l'hiver ici.
Yeah.
And what is for you the spirit? Quel est l'esprit de Woodstock, selon vous aujourd'hui?
Well, I mean, I was born and raised here.
Comme je vous ai dit, je suis né ici. J'ai grandi ici. Pour moi, c'est l'ouverture d'esprit et l'acceptation de l'autre. On peut faire ce qu'on veut et on est très tolérant. On ne porte pas de jugement sur l'autre. On peut avoir des convictions complètement différentes de son voisin, et c'est très bien. Et moi, pour moi, c'est ça, l'esprit de Woodstock.
Vous avez de longs cheveux.
Ah non, ça n'a rien à voir avec Woodstock. Il y a des gens qui viennent là et qui parlent de ma coiffure, qui disent que j'ai l'allure d'une hippie. Mais non, c'est comme ça. Je suis coiffé comme ça, c'est tout. Non.
Et vous vendez ici des produits pour le corps, des savons, des shampoings. Ils sont particuliers.
We do have organic and gluten-free.
Ce sont des produits respectueux des animaux, des produits bio. Il y a des marques indépendantes. C'est un petit peu plus cher, mais de meilleure qualité que ce que l'on achète dans d'autres magasins. Donc, on essaye de proposer des produits répondant aux besoins de tous.
C'est très important d'être indépendant ici.
Yeah, absolutely.
Ah oui, tout à fait.
We have three stores.
On a trois magasins, nous, et on a trois salariés, un salarié dans chaque magasin. Donc c'est une toute petite entreprise qui est bien insérée dans la communauté. La propriétaire vit ici. Elle est là depuis 20 ans. Le premier magasin était là, en bas de la rue.
Elle a des cheveux longs aussi.
Non, elle n'a pas les cheveux longs comme moi, non.
Vous êtes heureuse de vivre ici?
Yes and no. I love Woodstock.
Oui et non.
Woodstock girl at
j'aime
heart.
Beaucoup Woodstock. Je suis une fille de Woodstock, mais j'ai 23 ans.
Et
pour les gens de mon âge, j'ai pas beaucoup de possibilités professionnelles. C'est bien d'y grandir et c'est un bon endroit où on peut passer sa vieillesse, mais les gens de ma génération n'ont pas de possibilité de carrière ici. Ma sœur aînée est dérogatrice d'intérieur. Elle a déménagé en Caroline du Nord maintenant parce qu'ici elle pouvait pas travailler. Donc oui et non pour répondre à votre question.
Qu'est-ce que c'est pour vous, Woodstock, un événement que vous n'avez pas vécu, évidemment?
That has like no significance to me, the Woodstock Music
à vrai
Festival.
Dire, ce festival n'a pas tant d'importance que ça pour moi. Alors évidemment, c'est une grande attraction, mais pour moi, ce n'est pas très important. Ça n'a aucune incidence sur ma vie actuelle. Donc pour moi, ce n'est pas très important ce festival.
La drogue. Les hippies, la méditation, le yoga.
Yeah, I mean that has a big presence here.
Oui, tout ça c'est très présent ici.
Music life, art life.
La vie artistique est assez trépidante ici. Il y a plein de méditations, de yoga, et ainsi de suite. Mais moi, je suis pas très fan personnellement.
Voilà, au lieu d'un mouvement de retour à la terre, elle veut elle partir à la ville car il n'y a pas de travail dans une petite ville comme Woodstock, Elliot Lepers.
Oui, c'est pas la seule, effectivement. Je pense que c'est aussi l'industrialisation de nos sociétés qui fait que on quitte les campagnes qui ne sont plus adaptées à nos sociétés de services et aux nouvelles évolutions du monde du travail. Donc, je pense que tout ça est assez lié et ça montre d'une certaine manière, non pas la réussite du mouvement hippie, mais une forme de faillite de notre modèle de répartition de la richesse, de la production sur le territoire et d'égalité des territoires.
Sandrine Rudeau.
Et en fait, c'est ça se recycle pas, quoi, les utopies. Et donc, du coup, il y a aussi aujourd'hui un retour à la terre, mais qui est plus du tout le même. Il y a des éco-villages aujourd'hui qui sont en train de se créer, de gens qui ont envie de sortir de la société de consommation, de s'affranchir aussi.
Il y en a un magnifique, par exemple, à Berlin, 25 Holzmark. Ouais. C'est un quartier, c'est un village hippie au cœur de la ville de Berlin, par exemple.
Ouais. Ouais, et c'est refait avec les opinions de l'époque, avec les contraintes de l'époque. Et en fait, Woodstock, c'est un vieux, voilà, c'est bon.
Quelque chose comme Burning Man, vous en pensez quoi? Qui est un festival, on pourrait dire néo-hippie, qui est déjà d'ailleurs ancien, une trentaine d'années, qui a lieu chaque été, au mois d'août justement. Alors là, ça se passe dans le Nevada, dans un désert très alcalin.
Ouais, c'est assez impressionnant. Moi, j'y ai été l'an dernier. C'est vrai que il y a un désir d'abord en fait de s'extraire de ce qui est défini comme le default world, le monde par défaut. Burning Man est censé être une forme d'enclave où le monde par défaut n'existe pas et où justement on va nier le système politique pour ne pas lui donner d'importance. Ça, c'est un peu le parti pris. Après, il y a énormément de dérives là-dedans et derrière cette idée de base qui est extrêmement pertinente de recréer une culture commune qui soit une culture du partage où notamment il y a pas d'argent qui circule et où tout est donné et où on est dans la rencontre spontanée et naturelle avec toutes les personnes qui sont là, effectivement
avec la musique, avec aussi la nuit, les hippies d'une certaine manière, le yoga, tout ça est là, les naturistes.
Ouais,
ça, moi, j'ai été l'année d'avant vous et c'était l'année Léonard de Vinci justement, très étonnamment. L'homme de Vitruve était le Burning Man qui allait être brûlé à la fin de cette ville qui avait été construite comme Florence.
Et ça, c'est important parce que c'est aussi créer de la spiritualité. Et il y a effectivement ces icônes qu'on va brûler à la fois l'homme et à la fois le temple. L'homme qui est plutôt l'énergie positive et le temple qui est plutôt l'énergie négative où beaucoup de gens viennent se recueillir pendant toute la semaine, déposer des mots à leurs proches décédés. Et tout ça part en fumée et permet de se libérer. Et donc, ça crée des moments de rassemblement collectif.
Et
ça,
on ne laisse aucune trace.
Et effectivement, aucun déchet, on ne doit pas avoir de paillettes, pas avoir de plumes, parce que rien ne doit s'envoler.
Sandrine Rudeau.
Et ce qui est intéressant, c'est il y a la contre-culture de la contre-culture, mais l'idée, c'est que ce ne soit pas un événement ponctuel avec des choses très lissées et des grands concepts, etc., et que ça dure quelques jours simplement. À côté de ça, il y a vraiment des utopies qui sont en expérimentation. Et ça, on en parle moins, mais il y a des gens qui sont en train de travailler sur la démocratie directe à tout un tas d'endroits, des gens qui travaillent sur une autre école, des gens qui travaillent sur une autre le low-tech, sur comment se passe des GAFA. Donc en fait, je dirais, ça s'expérimente à plein d'autres endroits qui ne sont pas forcément effectivement très spectaculaires, comme un Burning Man ou comme un Woodstock.
Je pense que la clé, c'est la surprise. Et en fait, effectivement, on ne s'attendait pas à Woodstock. Et c'est ça qui en a fait quelque chose d'hors du temps, de la même manière que Nuit Debout n'était pas attendue, de la même manière que les Gilets jaunes n'étaient pas attendus. Et c'est là qu'existe effectivement l'authenticité de cette ferveur-là. Dès qu'on l'institutionnalise, eh bien, on passe dans autre chose.
Ça, c'est très juste sur le fait qu'en fait, dans l'époque, on est incapable de voir ce qui est historique. Et par contre, des années plus tard, on va lisser et vraiment, on va oublier tout ce qu'il pouvait y avoir de négatif dans cette histoire et de pas parfait. On a besoin comme ça de grands mythes qui ponctuent notre histoire. Et aujourd'hui, on les voit pas.
À l'instant, la version fameuse, célèbre et psychédélique de l'hymne national américain, interprété par Jimi Hendrix, précisément à Woodstock. Alors nous nous trouvons maintenant, toujours à Woodstock, dans un magasin New Age qui incarne les nouvelles spiritualités, autre thème important de Woodstock.
This is a New Age store and an interfaith spirituality.
Nous sommes une boutique New Age ici. Intercroyance, nous représentons différentes traditions spirituelles.
Les nouvelles spiritualités, on peut dire.
Oui, on représente les nouvelles spirituelles, la spiritualité mondiale, le bouddhisme, l'hindouisme, le soufisme, le judaïsme, le christianisme.
Shinto,
les traditions celtes et druidiques, la spiritualité de la terre.
Depuis combien de temps vous êtes ici à Woodstock?
I've had my shop here for
Cette boutique, years. Je l'ai depuis 28 ans.
Pourquoi vous êtes venu ici?
J'ai 63 ans, j'ai grandi ici. Mon père était professeur des sciences de la Terre, responsable du département ici, et j'ai eu une collection de cristaux toute ma vie. Il a vécu une expérience proche de la mort, et cela m'a transformé, et depuis je m'intéresse à la spiritualité intérieure des êtres humains. À mon sens, il faut que les gens trouvent leur identité spirituelle et se détournent de la société de consommation.
L'esprit de Woodstock demeure aujourd'hui à travers ses spiritualités orientales, différentes, singulières.
Yes, the spirit of Woodstock
oui,
is
l'esprit
still
de Woodstock vit encore. Il ne s'agit pas simplement de sexe, de drogue et de rock'n'roll. Hein. Woodstock, c'est à propos de l'instinct qu'a l'homme de créer de la beauté et des choses qui permettent de relier les êtres entre eux, qui touchent l'âme et qui reflètent la vision de la beauté d'une personne chez l'autre. C'est le cas de la musique. Il y a une personne qui joue de la musique et l'autre danse. Vous voyez ? C'est comme ça.
Vous êtes dans Soft Power sur France Culture. Ce soir, on parle de Woodstock. Woodstock, 50 ans et toutes ses dents. Nous sommes avec Sandrine Roudeau, auteure de L'Utopie, mode d'emploi, et Lyot Lepers, fondateur de l'ONG Le Mouvement. À l'instant, la personne que nous avons interviewée à Woodstock évoquait, au fond, le New Age, les nouvelles spiritualités. Ça vous évoque quoi, Sandrine Roudeau?
Mais en fait, ces nouvelles spiritualités, c'était encore une fois une façon de s'affranchir des grandes autorités religieuses. Et finalement, de se réapproprier sa propre spiritualité. Et on a ça aussi aujourd'hui. Et même quand ils allaient dans la drogue, ils disaient que c'était pour élargir leur champ de conscience. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Tout ce qui est sur le développement personnel, le chamanisme, la danse médecine aujourd'hui. Enfin, il y a tout un tas de pratiques.
Ce qu'on appelle les spiritualités souples, que reflète par exemple le succès de livres comme ceux de Laurent Gounel ou Frédéric Lenoir, le religieux flottant, on dit aussi, donc le yoga, la méditation.
Et ça, c'est extrêmement présent aujourd'hui. Hein. On l'a encore.
Il y a des autocollants qu'on peut voir à Woodstock aujourd'hui. Il y en a un qui dit « Woodstock, be your own Buddha ». Soyez votre propre Bouddha. Il y en a un autre « Woodstock, now and then ». Soyez zen et aujourd'hui.
Moi, je dis toujours, on est à une époque, il faut qu'on désobéisse et qu'on tue tous les pères et toutes les autorités, notamment les autorités religieuses, puisqu'on fait les pires choses. «
Pour terminer cette émission sur Woodstock, je vous propose de s'intéresser maintenant à Internet, au fond, avec vous et Lotte Lepers. Internet, c'est une éthique, c'est l'éthique des hackers notamment, à l'origine. Mmh. Et c'est aussi beaucoup de choses aujourd'hui, les cyberpunks, les streampunks, etc. Il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là même, dans les années, au début des années 70, à savoir comment le mouvement hippie va... engendrer ce coup-ci côte ouest, c'est-à-dire en Californie, la Silicon Valley.
Ouais, effectivement, c'est à ce moment-là que naît Internet, dans les campus, effectivement, plutôt avec des professeurs qui réfléchissent à la mise en commun, à rendre accessible la connaissance. D'ailleurs, Burning Man, il y a beaucoup de patrons de la Silicon Valley qui s'y rendent. On voit bien aussi cette volonté de reconnecter. Et donc, je pense qu'il y a effectivement une forme de porosité assez forte entre cette volonté avec cette volonté de casser les codes, finalement, qui anime l'idéologie de la Silicon Valley avec toutes les dérives qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est une forme d'énorme ironie parce que l'idée originelle d'Internet, qui était celle de créer un réseau mondialisé dans lequel tout le monde pourrait être connecté, tout le monde pourrait avoir accès à une forme de liberté, eh bien aujourd'hui finalement est assez fanée parce que on voit bien qu'Internet aujourd'hui l'essentiel du trafic ce sont pour des géants qui concentrent tout le savoir, toute l'économie, tout le trafic. Et donc c'est intéressant de voir à la fois comment est-ce que les créateurs sont fascinés par ces nouvelles formes de contre-culture, par le libertarianisme, par toutes ces spiritualités. Et on sait que Steve Jobs aussi était très, très touché par ces spiritualités. Et en même temps, comment est-ce que la production, leur œuvre, est finalement à l'opposé de ce qu'avaient pensé les créateurs d'Internet.
Avec les commons, les makers, l'éthique hacker, on voit bien que cet esprit, au fond, du hackathon, de la co-créativité, de la collaborative learning, comme on dit, il y a quelque chose un peu de l'esprit hippie dans l'origine de la Silicon Valley, une utopie libertarienne qui a créé le web. Sur ce sujet, je vous recommande 5 ouvrages, celui de Steven Levy, l'éthique des hackers, celui de John Markoff, What the Dormouse Said, où il analyse comment la contre-culture des années 60 a fait l'industrie de l'ordinateur personnel. Adam Fischer, Valleys of Genius, là c'est une histoire de la Silicon Valley, livre basé sur des entretiens avec les fondateurs et les hackers qui ont fait l'histoire d'Internet en Californie. Fred Turner, dont le livre From Counterculture to Cyberculture raconte aussi cette histoire. Et enfin, Walter Isaacson, dont la biographie de Steve Jobs remonte à ses origines hippies. Nous l'avons interviewé, justement, Walter Isaacson, qui a fait cette biographie de Steve Jobs, qui s'est vendue à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Nous l'avons interviewé pour cette émission en lui demandant quelle fut l'influence du mouvement hippie sur Steve Jobs. Walter Isaacson. Je pense que Steve Jobs a été énormément influencé par le mouvement hippie, par leur musique, par la culture rebelle des années 60 et 70 aux États-Unis, qu'on voit d'ailleurs aussi en France à cette époque. Il adorait la musique de révolte de cette période. Il adore le concept « think different », penser différemment, comme il le disait pour Apple. Donc je pense que le mouvement de libération de la parole, l'opposition à la guerre, les hippies et cette musique, particulièrement celle de Bob Dylan, ont profondément influencé Steve Jobs. Voilà pour cette émission Woodstock 50 ans et toutes ses dents. Sandrine Roudot, auteure de L'Utopie mode d'emploi, et Lotte Lepers, fondateur de l'ONG Le Mouvement, merci à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir. Je remercie également les équipes de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour nous avoir aidés à préparer cette émission, en particulier pour les archives sonores. Je remercie enfin Xavier Combes, qui a traduit la plupart des entretiens en anglais que vous avez entendus ce soir. Pour préparer cette émission, j'ai notamment lu et utilisé l'ouvrage de référence « Small Town Talk », avec un sous-titre Bob Dylan, The Band, Van Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix et leurs amis. C'est une histoire de Woodstock signée par Barney Hoskins, non encore traduit en français. En français, vous pouvez lire l'ouvrage de Mishka Assayas, Woodstock, qui vient de paraître. Toutes ces références, ainsi que les musiques, les ouvrages, les livres et les articles que nous avons écoutés ou utilisés ce soir, sont à retrouver sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture. Soft Power, dans un instant, seconde partie de cette émission. À 20h10, le Club de la presse numérique. Nous parlerons des tendances au web 2019. Et dans un instant, Zoé Sfez reçoit son invité innovation, Nathan Resnick. Tout ça à suivre après The Band sur France Culture.
my hand. No was all he said. Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny. And you put the load right on me. Picked up my bag, I went looking for a place to hide. Then I saw Carmen and the devil walking side by side. I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around.
France Culture, soft power. L'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Nathan Reznik, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous êtes avec nous parce que vous êtes le directeur général d'Illucity. Illucity qui est le premier parc d'attractions en France, c'est ça ou c'est pas ça, c'est vrai?
C'est le premier parc d'attractions en réalité virtuelle.
En réalité virtuelle, c'est ça que j'allais dire, oui c'est vrai. C'est un premier parc d'attractions en France de réalité virtuelle et c'est déjà le plus grand d'Europe?
C'est effectivement le plus grand pour le moment. Le parc de Paris est sur 1000 mètres carrés. Qui nous permet d'avoir une grande variété d'expériences en réalité virtuelle.
Alors, on va parler évidemment de ce parc d'attractions qui a ouvert donc à la Villette. Vous êtes en fait dans cet endroit stratégique, puisque vous êtes en face de la Cité des Sciences, qui est un endroit qui s'est toujours intéressé aux prouesses technologiques, pas très loin de la Géode. Vous avez tout un public d'amateurs de sciences et de geeks qui viennent souvent à la Villette. Vous venez d'ouvrir ce parc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parc d'attractions en réalité virtuelle?
Alors, c'est un parc où on va vous proposer une variété d'expériences en réalité virtuelle. C'est-à-dire que vous allez mettre un casque sur la tête et vous allez être immergé totalement dans un contenu. Donc à la Villette, dans le parc Illucity, on propose par exemple des jeux, donc des escape games. Donc vous êtes à plusieurs, donc vous faites un escape game qui va durer à peu près une heure.
Donc escape game, c'est, comme on dit en anglais, on peut le retraduire, c'est le jeu où il faut s'échapper.
C'est un jeu d'évasion. Vous êtes enfermé dans une pièce et vous devez résoudre des énigmes, des puzzles pour justement réussir à sortir de cette pièce.
Et ça existe ça dans la vraie vie? Il y a des salles où on peut faire de l'escape game avec ses copains. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que c'est le principe de la réalité virtuelle, par exemple, là?
Alors, la grande différence par rapport à un escape game, un jeu d'évasion traditionnel, c'est que nous, on va justement réussir à vous immerger dans des univers assez incroyables. On peut vous emmener dans la jungle, on peut vous amener au Moyen-Âge. Et également, on va vous donner l'impression que vous parcourez beaucoup plus de superficie que la salle dans laquelle vous êtes. C'est toute la magie de la réalité virtuelle. On va vous donner l'impression que vous changez de pièce. Par exemple, vous vous baladez dans un vaisseau spatial pour résoudre justement des énigmes et aller encore plus loin dans le vaisseau. On va également vous amener des sensations. On a du plancher vibrant, on a des ventilateurs qui vont simuler du vent. L'idée, c'est vraiment de créer beaucoup de réalisme pour tromper votre cerveau et vous donner l'impression que vous êtes finalement totalement dans le jeu, dans le contenu. Vous êtes l'acteur, finalement, d'un jeu.
Alors on peut revenir, avant d'évoquer les autres pistes, sur la technologie de la réalité virtuelle, qui est une technologie qui fascine, qui existe déjà beaucoup et sur lesquelles notamment travaillent énormément de fabricants de matériel technique, notamment dans le jeu vidéo. Et d'ailleurs, on est un petit peu dans cette question, est-ce que c'est un grand parc de jeux vidéo? Est-ce que c'est correct de le dire comme ça?
Alors, nous, on ne se qualifie pas comme un parc de jeux vidéo, parce qu'on a effectivement du jeu vidéo, mais on a aussi du film, par exemple. Ça, c'est important pour nous. On a des simulations, type simulation de voitures, qui sont très réalistes. On a des équipes de e-sport qui veulent venir s'entraîner, justement, pour conduire des voitures sur circuit. Donc, on se définit vraiment, justement, comme un lieu un peu comme un cinéma, où on va avoir une variété de programmations qui vont se renouveler régulièrement, parce que ça, c'est une volonté qu'on a chez Illucity, effectivement, c'est de changer et d'augmenter l'offre de contenu.
On va revenir sur les contenus, mais vous, justement, vous venez du cinéma, je crois.
Tout à fait.
C'est ça votre parcours. Où est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'il y a déjà d'autres parcs de réalité virtuelle dans le monde? J'imagine que oui. Et pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, il faut qu'on se lance là-dedans, la France est prête?
Alors, il y a effectivement, on voit de plus en plus depuis deux ans, des lieux comme ça qui naissent en proposant la réalité virtuelle pour le loisir. À l'étranger, par exemple, vous avez un parc qui s'appelle The Void. C'est un concept où, en fait, vous allez vivre une expérience dans un film, dans une licence de film. Vous avez, par exemple, des jeux...
Star Wars,
Ghostbusters...
Harry Potter.
Le monde de Ralph. Voilà, c'est des choses aujourd'hui qui existent. Vous avez également un concept qui est en train de se lancer là, depuis quelques jours à Los Angeles, qui s'appelle Dreamscape Immersive, où là, c'est du cinéma en réalité virtuelle. Donc, vous êtes passif, mais vous êtes immergé totalement dans le contenu.
Vous baladez dans le film.
Vous promenez, voilà, dans un film. Vous avez également, à Dubaï, par exemple, sur 7000 mètres carrés, un concept de parc de jeux. Alors, vous avez environ 7 jeux d'arcade, plutôt, donc des jeux qui sont courts, Mais voilà, c'est dans un centre commercial et vous pouvez justement vivre un peu comme dans un mini parc d'attractions, des expériences à plusieurs.
Et vous, en fait, vous avez opéré un espèce de choix, puisque vous l'avez dit, il y a de l'escape game, il y a plutôt une expérience qui s'apparente à du film en réalité virtuelle, et il y a aussi du jeu d'arcade chez vous. Qu'est-ce que c'est le jeu d'arcade, pour ceux qui ne connaîtraient pas?
Alors le jeu d'arcade, nous on le définit comme étant un jeu qui est court, c'est-à-dire que ce sont des jeux qui durent entre 5 et 15 minutes, donc qui sont très accessibles justement pour le grand public, pour les gens, les novices, qui veulent tout simplement découvrir ce que c'est que la réalité virtuelle et qui ont peut-être un petit peu peur de se lancer dans une expérience qui va durer une heure. Donc voilà comment on qualifie le jeu. Donc vous avez des jeux de tir, vous avez des jeux de voiture, vous avez des jeux de vous pouvez résoudre des énigmes, mais c'est des jeux qui sont de court.
Et qui restent sensoriellement, disons, riches et épatants.
Alors on essaye justement de toujours vous donner cette sensation de réalisme. Par exemple, vous avez un jeu où vous incarnez un singe sur un building et vous tirez contre des drones qui vous attaquent. Et en fait, on a recréé la plateforme du building avec le pic, l'antenne sur laquelle vous êtes. Donc vous allez sentir physiquement cette antenne et vous allez sentir la sensation de vide si votre pied dépasse de la plateforme.
Incroyable. Alors justement, peut-être une question très idiote, mais ces technologies de réalité virtuelle, donc qui supposent évidemment, j'imagine, beaucoup de conceptions en termes d'image, évidemment en termes de son. J'imagine que vous vous servez de ce qu'on appelle le binaural aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de recréer dans un casque avec simplement de la stéréo la sensation de multidimensionnelle du son. Combien ça coûte de léoper un parc comme ça? Parce que j'imagine que l'investissement est assez massif, d'autant plus que vous l'avez dit, vous entendez renouveler fréquemment les jeux. C'est peut-être aussi l'une des manières d'être sûr que ce parc marchera.
En effet, alors l'investissement dans un parc Illicuti, le premier, celui de la Villette, ça représente un budget d'environ 1,5 million. Donc effectivement, c'est un budget conséquent. Pourquoi aussi? C'est parce qu'on a énormément travaillé l'expérience que peut avoir le public dans le parc. Et ça, c'est aussi une volonté, nous, de nous différencier par rapport à ce qui est proposé. C'est qu'on voulait que l'expérience... elle commence au moment où vous franchissez la porte du parc. Donc on a tout un parcours, justement, dans lequel vous allez évoluer, qui est sur la thématique de l'illusion, c'est pour ça qu'on s'appelle Illucity. Et donc on va justement vous emmener dans un univers un peu à part, un peu unique, pour justement vous amener progressivement vers les jeux, vers les activités, vers les films que vous allez voir en réalité virtuelle.
Le grand enjeu, c'est quand même d'attirer le grand public, parce qu'on l'a dit, ça s'apparente à du jeu vidéo, il y a toute une population qui s'appelle la population des gamers, des gens qui jouent, qui parfois investissent même chez eux dans du matériel de très haute technologie, qui connaissent bien. Le grand public connaît mal la réalité virtuelle et parfois en a peur.
Effectivement, la réalité virtuelle a fait un peu peur au tout début, parce qu'on avait la crainte en fait que ça isole. On imagine des gens qui ont des casques sur leur tête et qui sont complètement isolés du monde réel, des autres personnes. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ça qui est très intéressant. Au contraire, les jeux qu'on propose, notamment nous, sont souvent des jeux collaboratifs. On a besoin de communiquer. C'est-à-dire que dans le jeu, on voit son personnage, on a un avatar qui nous représente, donc on se voit, on voit les autres, on peut s'entendre, on peut parler, et même il faut absolument communiquer. Et au contraire, on se rend compte que la réalité virtuelle, elle crée du lien. Parce que justement, on vit une expérience qui est totalement unique, un peu exceptionnelle. Donc on est très fasciné souvent quand on commence à faire de la réalité virtuelle. Et on a envie de partager ça, on a envie de raconter. Même après, on a envie d'en parler, on a envie de vraiment discuter de quel point de vue on a vécu l'expérience.
Alors, on va parler du modèle économique, mais d'abord et avant tout, il faut le rappeler, quand même, et c'est la grande question, est-ce qu'on ne se perd pas dans la réalité virtuelle? Vous avez dit, l'une des peurs, c'est d'isoler, l'autre peur, c'est l'addiction. Je crois qu'il est conseillé aujourd'hui, recommandé, d'arrêter la réalité virtuelle toutes les 45 minutes minimum, c'est ça?
Alors, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas d'études scientifiques avec vraiment du recul qui nous permet de savoir quelle est la limite. Évidemment, nous,
vous, en tant que parc d'attraction, vous êtes obligé de vous poser la question.
Nous, on se pose la question et notre réponse, elle est qu'on se rend compte qu'il y a une limitation qui est celle du budget, tout simplement, parce qu'on reste quand même sur des activités qui ont un certain coût, donc on ne peut pas rester une journée entière à faire de la réalité virtuelle. Donc, il y a déjà une limitation qui est
naturelle. Dans ce cas-là, vous n'êtes plus rentable.
Alors effectivement, si on a un ticket pour que les personnes restent la journée, on perdra de la rentabilité. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut avoir le même comportement qu'avec le jeu vidéo. C'est effectivement un loisir dont il ne faut pas abuser. Il y a effectivement en plus un sentiment de réalisme dans la réalité virtuelle qui est vraiment très important parce qu'on est vraiment l'acteur. Hein, de son point de vue qu'on vit les expériences. Donc évidemment, on limite un petit peu ça.
Alors du coup, ça veut dire que vous allez demander à vos clients de se limiter comment et combien de clients vous pourrez avoir en même temps dans ce parc qui est grand, il fait 1000 mètres carrés, mais finalement, ça reste restreint au regard justement de l'espace qu'il faut et de l'engagement de chacun des visiteurs dans ce type de jeu.
Dans le parc Illucity de la Villette, on peut accueillir 33 joueurs en simultané. Donc on a une partie de ces joueurs qui vont être sur des expériences longues d'à peu près une heure et on a une autre partie qui va être sur des jeux courts, donc des jeux type d'arcade. Donc on estime qu'on peut avoir 60 personnes à 70 personnes par heure, un taux de rotation voilà, de 70 personnes par heure.
Ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup.
Voilà, c'est à la fois beaucoup pour la réalité virtuelle, c'est énorme par rapport aujourd'hui à d'autres lieux. Et c'est pas beaucoup si on compare au cinéma où on a une séance de cinéma qui peut démarrer avec 1500 personnes.
Combien il coûte le ticket pour Elucity et en combien de temps vous comptez potentiellement éponger, en tout cas faire un retour sur investissement? Il faudrait que ça marche vite et sur combien de temps?
Alors le ticket dépend de l'activité du jeu, de l'activité, du film que vous allez voir. Donc ça va entre 5 euros et 30 euros par personne. On estime qu'on aura un retour sur investissement au bout de 2 ans et demi, 3 ans.
Bon, et on va finalement regarder, suivre les évolutions et le bonheur de ce parc Elucity, premier parc d'attractions français et déjà le plus grand d'Europe à Paris. C'est à la Villette, dédié à la réalité virtuelle. La réalité virtuelle qui va sans doute se développer, se démocratiser. Peut-être que dans 10 ans, tout le monde en aura chez soi. Est-ce que c'est un danger pour vous?
Alors non, justement, parce qu'on a pensé ce parc Elucity de manière justement à anticiper le fait que les gens vont s'équiper un jour. C'est notre conviction. On pense que les usages vont se développer sur la réalité virtuelle. Et donc, on se doit d'avoir un lieu qui fasse justement, qui donne envie aux gens de se déplacer. Et donc, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par un matériel, des accessoires pour les jeux qui ne sont pas accessibles au grand public. Et également par des jeux qui se jouent sur des grandes superficies, par exemple 100 mètres carrés. Aujourd'hui, vous pouvez venir chez Elucity pour jouer sur une surface de 100 mètres carrés, ce que vous ne pouvez pas reproduire chez vous.
Merci beaucoup, Nathan Reznik. Vous êtes le directeur général d'Elucity. C'est donc à Paris, c'est à la Villette.
Merci à vous.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique pour terminer cette émission consacrée à Woodstock. Woodstock, c'était le passé, maintenant on va s'intéresser au futur et notamment aux tendances web 2019 que l'on va essayer de passer en revue en faisant un peu de prospective avec nos deux prospectivistes justement de ce soir. Amaël Guiton de Libération.
Bonsoir.
Prospectiviste.
C'est flatteur, prospectiviste. Hein. Futurologue, non?
Si tant est qu'on arrive à prévoir quoi que ce soit. Elliot Depers qui est resté avec nous. Alors pour cette dernière émission de l'année 2018, nous vous proposons de nous intéresser à l'année à venir, un peu de prospective donc. On ne va pas être exhaustif en quelques minutes, mais on va essayer de prendre quelques points qui pourraient marquer l'année 2019. Peut-être on peut commencer par l'AI, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour, au fond, du big data, puisque l'intelligence artificielle, ce n'est que du big data un peu renamé avec un nouveau nom. Peut-être pour commencer, Amel Guiton, sur ce sujet.
Bah, ça avance très vite, ça progresse. On voit que surtout, ça va dans de plus en plus de secteurs. J'ai travaillé récemment sur les applications en santé. C'est vrai que c'est assez vertigineux. On voit qu'aujourd'hui, l'autorité du médicament aux États-Unis a autorisé l'utilisation de dispositifs d'intelligence artificielle pour diagnostiquer des pathologies oculaires, par exemple. On s'en sert aussi pour prédire la réaction au traitement en cancérologie, par exemple. Ça pose énormément de questions parce qu'on voit aussi que en la matière, une fois de plus, les GAFA, comme on dit, en particulier Google, Facebook, Microsoft, etc., ont là encore un temps d'avance. Google, par exemple, fait déjà des expérimentations typiquement sur les pathologies oculaires avec des hôpitaux en Inde. Donc, va encore se poser la question du rôle et de la place de ces acteurs dans un secteur qui, par définition, est à la fois un secteur qui, dans lequel le public... les autorités publiques ont un rôle absolument prépondérant et qui est par ailleurs un secteur qui touche à l'intime. Donc je pense que ça va de nouveau provoquer de vrais débats sur comment est-ce qu'on protège les données de santé qui sont par définition des données particulièrement sensibles, quelle place on donne à la machine par rapport à l'humain, parce que ça aussi, les médecins se posent évidemment beaucoup de questions là-dessus, qu'est-ce qu'on fait de notre système de protection sociale qui est un système qui repose sur la solidarité alors qu'on va vers une médecine de plus en plus individualisé. Enfin, ça soulève des questions assez passionnantes.
Et Elliot Depers sur l'intelligence artificielle.
Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est peut-être le nouveau terrain commercial, en tout cas d'évolution pour beaucoup d'entreprises, avec tous les enjeux que ça soulève. On peut parler des enjeux effectivement environnementaux, beaucoup de consommation d'énergie, beaucoup de nouvelles données qui sont générées, et puis effectivement toutes ces données qui viennent pour beaucoup d'utilisateurs parfois anonymisés, parfois pas. On a vu encore il y a quelques semaines que Facebook avait donné accès à plusieurs millions de données de comptes utilisateurs à d'autres compagnies comme Airbnb et Netflix pour qu'elles puissent effectivement utiliser ces données-là. Derrière, effectivement, se poser la question de savoir est-ce que tous ces services-là ne vont pas nous compromettre à un moment donné. Je pense que c'est ça la grande question, moi, qui me taraude.
Il va y avoir un gros débat sans doute dans les mois à venir, peut-être même les années à venir, sur la question de la reconnaissance faciale. On voit venir là de la part de Google et de Microsoft des appels à réguler parce que eux développent des outils et ils commencent à voir quand même les impacts que ça peut avoir et les problèmes que ça peut poser. Et ce sont eux, et c'est quand même pas tous les jours que ça arrive, qui appellent les régulateurs à donner un cadre à tout ça pour que justement il n'y ait pas de mésusage de ce type de techno qui pose effectivement des risques en matière de liberté fondamentale extrêmement élevés.
En matière d'intelligence artificielle, les géants du web disent qu'ils travaillent de manière de plus en plus efficace sur la question du langage et notamment de la traduction. Alors c'est lié pour une part aux assistants vocaux aussi. On sait que la traduction, c'est pas parfait, même si Google Traduction arrive à traduire, mais ça donne parfois des résultats assez étranges. Ils disent on va y arriver.
Ah, ça progresse extrêmement vite, mais pour le coup, c'est vraiment deux domaines où le deep learning, ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, qui est une branche de l'intelligence artificielle et qui a vraiment le vent en poupe là depuis quelques années, parce qu'elle repose sur des corpus massifs de données, et donc effectivement, c'est aussi pour ça que Google, Facebook, Microsoft, etc. se sont engagés là-dedans. Il y a deux domaines où le deep learning, ça marche effectivement très bien, c'est la reconnaissance d'images et la reconnaissance de texte et par extension, la traduction. Alors, on voit effectivement que c'est pas parfait, on voit régulièrement notamment passer des petites images d'IA qui se retrouvent à pas pouvoir vraiment faire la différence entre un petit chien et un cookie, par exemple, qui se ressemblent, mais quand même ça avance, et sur la traduction c'est la même chose. Enfin, il faudrait pouvoir revenir en arrière et réutiliser la traduction de Google, par exemple, telle qu'elle était il y a 5 ans, on se rend compte que ça a quand même énormément progressé. Ça ne sera jamais totalement parfait.
Surtout pour des textes littéraires notamment.
On aura toujours besoin de vrais traducteurs, notamment dans l'édition, mais moi je vois bien l'usage que j'en ai en tant que journaliste quand il s'agit d'essayer de comprendre,
exemple.
Non, ou russe ou allemand, ou parce que mon allemand est vraiment très 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 rouillé.
Votre polonais, votre russe est bien meilleur.
Ils sont parfaitement calamiteux, mais on voit bien qu'on arrive quand même à s'en sortir en ayant une compréhension assez fine de ce qu'on lit.
Et puis il y a tout l'enjeu de l'anticipation qui effectivement devient très pertinent sur la question des politiques, parce qu'on arrive à traiter des masses colossales de données et d'identifier des motifs. Et ça permet par exemple dans l'observation des territoires, l'observation des images satellites, d'anticiper qu'on a vu qu'il y a un feu de forêt à tel endroit qui s'est déclenché, on arrive à revenir en arrière et d'identifier que eh bien, il y a des zones similaires qui se ressemblent d'une image à l'autre, d'une zone à l'autre qui a donné un feu de forêt. Donc on peut imaginer qu'on anticipe des catastrophes naturelles en observant des volumes massifs de données, ce qu'on ne peut absolument pas faire à l'œil nu. Donc ça permet éventuellement une nouvelle forme de la gestion des politiques publiques par la modélisation et par la création de modèles qui permettent d'anticiper.
Alors on parle ce soir des tendances web de 2019. En partant de l'intelligence artificielle, transition facile avec le deuxième sujet que j'aimerais qu'on traite, à savoir la bataille entre la Chine et les États-Unis. Et là on voit bien qu'en matière d'intelligence artificielle, les Chinois mettent le paquet, si on veut le dire un peu de manière facile, comme ça, avec un travail et des sociétés, le rôle d'Alibaba, de Tencent dans le deep learning et l'intelligence artificielle, Mal Guiton.
Ils ont un bassin de population déjà qui est colossal. Donc ça génère énormément de données. Et alors pour le coup, par rapport aux États-Unis et encore plus par rapport à l'Europe, le cadre de protection des données personnelles en Chine est quasiment inexistant.
Il n'y a pas de RGPD.
Il y a en plus effectivement une. On le voit bien avec ce qui se profile en termes de notation, etc. Enfin, il y a une forme aussi de contrôle social de la population par les algorithmes, par les données, etc., qui est quand même extrêmement fort. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas vraiment de garde-fou sur l'exploitation des données, ils progressent extrêmement vite. Et puis, il y a effectivement une course qui est lancée. Mais alors là, pour le coup, c'est sur tous les secteurs. Ça va de l'intelligence artificielle à la 5G, hein, on le voit bien. Il y a des tensions commerciales extrêmement fortes entre ces deux superpuissances économiques, et y compris même en termes de diplomatie. C'était quand même assez frappant de voir par exemple qu'au moment où se déroulait à Paris le forum sur la gouvernance de l'internet, qui est donc au départ né dans ces instances multi-acteurs du début de l'internet et qui ont longtemps été dominés par les États-Unis, il y avait un forum sur la gouvernance équivalent concurrents en Chine quelques jours avant. Donc on sent aussi qu'il y a une volonté de porter non seulement de proposer des services alternatifs, mais aussi de porter une vision alternative qui puisse faire concurrence à la vision américaine.
Alors après l'intelligence artificielle et la bataille Chine-États-Unis, sujet sur lequel on reviendra au cours de cette année parce qu'ils vont être, on peut le penser, régulièrement dans l'actualité. Venons-en à la 5G, troisième point évoqué ce soir qu'on a choisi. Les premiers smartphones sous Android disponibles peut-être au premier semestre 2019, alors que pour les iPhones ce ne sera pas avant 2020. Il n'empêche, la 5G pourrait être une évolution, sinon une révolution. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, Eliott Peirce?
Ouais, moi, je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir la question de la couverture. Effectivement, c'est aujourd'hui, on a encore énormément de zones blanches en France, énormément de personnes...
Même en 2G et en 3G.
Et voilà, c'est ça, qui n'ont pas encore accès à Internet mobile, finalement. Et donc, ça pose énormément d'enjeux, de développement des territoires, de développement économique. Et donc, je pense qu'il y a un peu un dérèglement entre ce qui ressemble un peu au développement des lignes à grande vitesse de TGV et derrière la perdition des petites lignes rurales du quotidien. Donc, moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète.
On est quand même pour le moment encore en phase de test. Hein. Je crois que les attributions de fréquence, ça doit être l'année prochaine. Orange lance des tests. Alors, ils vont effectivement lancer des tests dans quatre grandes villes. Je crois que c'est Lille, Paris, Marseille, Nantes. Donc, on sent que ça va très vite. Hein.
Mais la 5G, c'est notamment l'avènement de l'Internet des objets.
Et il y a vraiment l'enjeu des voitures connectées dans ce sujet-là, parce qu'effectivement, si on a des véhicules qui ont besoin d'analyser des situations en temps réel, qui ont besoin de communiquer des informations de manière extrêmement rapide à des serveurs pour réagir, eh bien, effectivement, on a besoin d'avoir des bandes passantes qui sont plus performantes. Et donc, la question derrière de la répartition de ces bandes-là, de savoir est-ce qu'on va pouvoir préserver une neutralité du net avec ces enjeux-là de vie ou de mort à travers ces véhicules connectés, donc ça soulève énormément de questions.
Qu'est-ce que vous voyez, quatrième sujet, venir, puisqu'on est dans la prospective avec nos prospectivistes dans les tendances web de 2019, qu'est-ce que vous voyez venir sur les réseaux sociaux, Amel Guiton?
Alors là, pour le coup, ça dépend vraiment de ce qu'on entend par là, parce qu'il se passe énormément de choses. Il va y avoir des questions de données personnelles qui vont continuer de se poser par rapport à tout ce qui s'est produit par rapport à Facebook au cours de l'année 2018. Ça ne va pas s'arrêter. Le dernier scandale, c'était, je crois, encore à la mi-décembre. Hein, donc on peut encore prévoir probablement des fuites l'an prochain. On voit revenir des formats. Je trouve que ce qui s'est passé au moment des gilets jaunes, c'est quand même extrêmement intéressant. On voit que par exemple les formats live ont extrêmement bien marché.
Les stories aussi.
Quelqu'un comme Rémi Buisine qui maintenant travaille pour Brut, ses lives sur les gilets jaunes, enfin c'était quasiment des chiffres d'audience de télé. Ça dit aussi, je pense, quelque chose politiquement, c'est-à-dire que à la fois, je crois, le live et ces gens qui se filment en s'exprimant face caméra, etc. Ça dit quelque chose à la fois d'une volonté de reprise de parole et d'un besoin de transparence extrêmement fort qu'on sent monter et qui, d'ailleurs, y compris, s'exprime dans le rapport parfois conflictuel avec les médias classiques.
Dans les évolutions sur les réseaux sociaux, à noter, et c'est un phénomène qu'on a vu apparaître au Brésil, l'utilisation de WhatsApp notamment et des groupes WhatsApp pour faire de la mobilisation politique, l'arrivée peut-être de la publicité peu à peu sur WhatsApp, la mort programmée de Google+, qui a été quasiment annoncée par Google, échec donc de Google face à Facebook en l'occurrence.
Elle était d'ailleurs avancée suite à une fuite de données, elle aussi, mort de Google+.
Le fait que Facebook est affaibli aujourd'hui par rapport à Instagram, alors bien que Facebook, Instagram et WhatsApp, ce soit tout la même société Facebook, on voit bien que Instagram, et notamment grâce aux stories qui ont permis à Instagram de monter en puissance, y compris par rapport à Snapchat, qui a beaucoup de difficultés aujourd'hui. C'est ces tendances-là que vous voyez, notamment, Eliott Peirce?
Mais d'ailleurs, Instagram vient d'ajouter une fonctionnalité qui permet d'envoyer ses stories, c'est donc ces images qui durent que 24 heures, uniquement à un groupe restreint d'abonnés qu'on aurait choisi, qui seraient des amis proches. Et donc là, ça devient concurrencer, évidemment, Snapchat. Donc on va vers peut-être un peu plus encore de concentration, avec la question de l'information qui se pose. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, une énorme part de l'information provient de gens qui ne sont soumis à aucune déontologie, qui ne sont soumis à aucune règle et qui pourtant produisent du contenu informatif.
Sinon, à leurs propres règles. Ouais.
Sinon, oui, effectivement, à leurs propres règles.
Et qui décident eux-mêmes pour des raisons notamment commerciales ou liées aux États-Unis. Donc.
Ça, c'est vrai, effectivement. Et donc, et puis des gens qui agissent en leur nom. C'est-à-dire, c'est très fort dans les réseaux sociaux, c'est que c'est des émetteurs qui sont individuels, qui créent leur propre identité et qui arrivent à informer leur communauté de manière peut-être plus plus granulaire finalement, mais en tout cas qui crée des canaux d'information. Et donc avec toute la question des fake news qui se développe et qui vise plutôt les réseaux sociaux en tant que plateforme, aujourd'hui on a un enjeu d'émetteur, c'est-à-dire qu'on a du contenu informatif et qui vient concurrencer directement les grands médias traditionnels. Et je pense qu'on en parle depuis des années, mais en tout cas la fuite d'audience, surtout pour les plus jeunes générations, et peut-être va voir son paroxysme à partir de 2019.
Cinquième tendance, et peut-être la dernière pour ce soir dont on peut parler brièvement avant de terminer cette émission, tout ce qui va être autour du paiement, le paiement mobile, ce qu'on appelle le cashless, avec des expérimentations désormais très très avancées. Il y a la question de la Suède, évidemment les Chinois qui sont très puissants dans ce secteur-là, Apple qui travaille sur ça, Google aussi, et d'autres de Perse.
En Suède, il y a un truc intéressant qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un consortium de six entreprises, six établissements bancaires qui ont travaillé avec l'État à créer un protocole qui permet du paiement par mobile de manière instantanée et sans aucun frais. Et aujourd'hui, c'est une technologie qui est présente dans les téléphones de plus de 50% des Suédois et qui est en train de révolutionner effectivement les technologies de paiement et en même temps qui vient concurrencer directement tous les acteurs intermédiaires qui vivent sur le fait de prélever une commission de 2-3% sur chaque transaction. Donc à la fois les entreprises de cartes bancaires, tous les services de paiement en ligne comme PayPal et Stripe. Et c'est très intéressant parce que ça montre qu'un État peut être au devant de l'innovation et réussir à créer des standards qui rassemblent l'ensemble des acteurs bancaires. Pour moi, c'est très enthousiasmant.
Amaël Guiton.
Ce qui va de nouveau d'ailleurs poser évidemment des vraies questions de sécurité informatique. Enfin, ça va encore être un de ces enjeux, comme l'Internet des objets, ceci dit. Enfin, on voit que ça s'étend vraiment sur tous les plans. Ouais.
Et de la même manière, je pense que c'est aussi la question de la régulation des crypto-monnaies qui se joue en même temps que ça. C'est que on a inventé en 2019 une forme de New Deal, de collaboration entre des acteurs privés qui vont porter l'innovation et qui vont créer des technologies de rupture et des acteurs publics qui vont faire en sorte que ces technologies soient stables, pérennes, ne donnent pas lieu à des fuites de données massives. Parce qu'in fine, je pense que la priorité, c'est qu'on arrive à la fois à continuer l'innovation pour une meilleure qualité de service tout en préservant une donnée qui est aujourd'hui extrêmement bafoué, c'est-à-dire notre vie privée.
Voilà, intelligence artificielle, la bataille Chine, États-Unis, la 5G, les évolutions des réseaux sociaux, les paiements mobiles. On aurait pu ajouter d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter, comme par exemple la recommandation par algorithme qui se développe avec aussi une composante humaine, ce qu'on appelle la curation intelligente ou smart curation, et tout un tas d'autres évolutions qu'on traitera, sur lesquelles on reviendra tout au long de l'année qui arrive et qui va bientôt commencer, l'année 2019, dans Soft Power. On en reste là pour ce soir. On se quitte d'ailleurs avec Lana Del Rey, Woodstock in my mind. Elle garde la mémoire de Woodstock qui était le thème de cette émission ce soir. Dimanche prochain, nous serons en 2019 et nous nous intéresserons à l'agenda audiovisuel et aux industries culturelles de 2019, justement avec Martin Hajdari, le directeur général des industries culturelles et des médias au ministère de la Culture. Merci à Maël Guiton, merci à Elliot Lepers et Zoé Sfès d'avoir été tout au long de cette émission ce soir avec nous. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. En attendant, bonne soirée, bonne année à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end. Not one music because they lost their minds. What about all these children and all their children's children? And why am I even wondering that today? Maybe my contribution could be as small as hoping that words could turn to birds. Send my thoughts your way. I traded